At Parker, our purpose is simple. We want to make the world a better place. By working more efficiently, by using more sustainable practices, by developing better technologies, we keep moving forward. With each new idea, innovation, and partnership, we're one step closer to fulfilling our purpose every single day. To find out more, visit parker.com/purpose. Parker, engineering your success.
Save big money now on new siding from LP SmartSide at Menards. Update and beautify your home with your choice of 13 timeless colors of pre-finished engineered siding. It's durable and includes a Sherwin-Williams factory finish paint warranty that means no painting for years to come. View our entire selection of siding from LP SmartSide today. And don't forget to check out our flyer on Menards.com for all the great deals happening now. Save big money at Menards.
Notice de la mare au diable. Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer, rendez-vous sur LibriVox.org. Enregistré par Ezwa. La mare au diable de George Sand. Notice. Quand j'ai commencé par La mare au diable, une série de romans champêtres, que je me proposais de réunir sous le titre de Veillée du chanvreur, je n'ai eu aucun système, aucune prétention révolutionnaire en littérature. Personne ne fait une révolution à soi tout seul, et il en est, surtout dans les arts, que l'humanité accomplit sans trop savoir comment, parce que c'est tout le monde qui s'en charge. Mais ceci n'est pas applicable au roman de mœurs rustiques. Il a existé de tout temps et sous toutes les formes, tantôt pompeuse, tantôt maniérée, tantôt naïve. Je l'ai dit, et dois le répéter ici, le rêve de la vie champêtre a été de tout temps l'idéal des villes, et même celui des cours. Je n'ai rien fait de neuf en suivant la pente qui ramène l'homme civilisé au charme de la vie primitive. Je n'ai voulu ni faire une nouvelle langue, ni me chercher une nouvelle manière. On me l'a cependant affirmé dans bon nombre de feuilletons. Mais je sais mieux que personne à quoi m'en tenir sur mes propres desseins, et je m'étonne toujours que la critique en cherche si long, quand l'idée la plus simple, la circonstance la plus vulgaire, sont les seules inspirations auxquelles les productions de l'art doivent l'être. Pour La mare au diable en particulier, le fait que j'ai rapporté dans l'avant-propos une gravure d'Holbein qui m'avait frappé, une scène réelle que j'eus sous les yeux dans le même moment, au temps des semailles, voilà tout ce qui m'a poussé à écrire cette histoire modeste, placée au milieu des humbles paysages que je parcourais chaque jour. Si on me demande ce que j'ai voulu faire, je répondrai que j'ai voulu faire une chose très touchante et très simple, et que je n'ai pas réussi à mon gré. J'ai bien vu, j'ai bien senti le beau dans le simple, mais voir et peindre sont deux. Tout ce que l'artiste peut espérer de mieux, c'est d'engager ceux qui ont des yeux à regarder aussi. Voyez donc la simplicité, vous autres. Voyez le ciel et les champs, et les arbres, et les paysans surtout, dans ce qu'ils ont de bon et de vrai. Vous les verrez un peu dans mon livre. Vous les verrez beaucoup mieux dans la nature. George Sand, Nohant, 12 avril 1851. Fin de la notice. Cet enregistrement fait partie du domaine public. Chapitre 1 de La mare au diable. Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer, rendez-vous sur LibriVox.org. Enregistré par Ezwa. La mare au diable de George Sand. Chapitre 1. L'auteur au lecteur. À la sueur de ton visage, tu gagnerais ta pauvre vie. Après long travail et usage, voici la mort qui te convie. Le quatrain en vieux français placé au-dessous d'une composition d'Holbein est d'une tristesse profonde dans sa naïveté. La gravure représente un laboureur conduisant sa charrue au milieu d'un champ. Une vaste campagne s'étend au loin. On y voit de pauvres cabanes. Le soleil se couche derrière la colline. C'est la fin d'une rude journée de travail. Le paysan est vieux, trapu, couvert de haillons. L'attelage de 4 chevaux qu'il pousse en avant est maigre, exténué. Le soc s'enfonce dans un fond raboteux et rebelle. Un seul être est allègre et ingambe dans cette scène de sueur et usage. C'est un personnage fantastique. Un squelette armé d'un fouet qui court dans le sillon à côté des chevaux effrayés et les frappe, servant de valet de charrue au vieux laboureur. C'est la mort, ce spectre qu'Holbein a introduit allégoriquement dans la succession de sujets philosophiques et religieux, à la fois lugubres et bouffons, intitulés « Les simulacres de la mort ». Dans cette collection, ou plutôt dans cette vaste composition où la mort, jouant son rôle à toutes les pages, est le lien et la pensée dominante, Holbein a fait comparaître les souverains, les pontifes, les amants, les joueurs, les ivrognes, les nonnes, les courtisanes, les brigands, les pauvres, les guerriers, les moines, les juifs, les voyageurs, tout le monde de son temps et du nôtre. Et partout le spectre de la mort raille, menace et triomphe. D'un seul tableau elle est absente. C'est celui où le pauvre Lazare, couché sur un fumier à la porte du riche, déclare qu'il ne la craint pas, sans doute parce qu'il n'a rien à perdre et que sa vie est une mort anticipée. Cette pensée stoïcienne du christianisme demi-païen de la Renaissance est-elle bien consolante, et les âmes religieuses y trouvent-elles leur compte? L'ambitieux, le fourbe, le tyran, le débauché, tous ces pécheurs superbes qui abusent de la vie et que la mort tient par les cheveux, vont être punis, sans doute. Mais l'aveugle, le mendiant, le fou, le pauvre paysan, sont-ils dédommagés de leur longue misère par la seule réflexion que la mort n'est pas un mal pour eux? Non. Une tristesse implacable, une effroyable fatalité pèse sur l'œuvre de l'artiste. Cela ressemble à une malédiction amère lancée sur le sort de l'humanité. C'est bien là la satire douloureuse, la peinture vraie de la société qu'Holbein avait sous les yeux. Crime et malheur, voilà ce qui le frappait. Mais nous, artistes d'un autre siècle, que peindrons-nous? Chercherons-nous dans la pensée de la mort la rémunération de l'humanité présente? L'invoquerons-nous comme le châtiment de l'injustice et le dédommagement de la souffrance? Non, nous n'avons plus affaire à la mort, mais à la vie. Nous ne croyons plus ni au néant de la tombe, ni au salut acheté par un renoncement forcé. Nous voulons que la vie soit bonne, parce que nous voulons qu'elle soit féconde. Il faut que Lazare quitte son fumier, afin que le pauvre ne se réjouisse plus de la mort du riche. Il faut que tous soient heureux, afin que le bonheur de quelques-uns ne soit pas criminel et maudit de Dieu. Il faut que le laboureur, en semant son blé, sache qu'il travaille à l'œuvre de vie, et non qu'il se réjouisse de ce que la mort marche à ses côtés. Il faut enfin que la mort ne soit plus ni le châtiment de la prospérité, ni la consolation de la détresse. Dieu ne l'a destiné ni à punir, ni à dédommager de la vie, car il a béni la vie, et la tombe ne doit pas être un refuge où il soit permis d'envoyer ceux qu'on ne veut pas rendre heureux. Certains artistes de notre temps, jetant un regard sérieux sur ce qui les entoure, s'attachent à peindre la douleur, l'abjection de la misère, le fumier de Lazare. Ceci peut être du domaine de l'art et de la philosophie. Mais en peignant la misère si laide, si avilie, parfois si vicieuse et si criminelle, leur but est-il atteint? Et l'effet en est-il salutaire comme ils le voudraient? Nous n'osons pas nous prononcer là-dessus. On peut nous dire qu'en montrant ce gouffre creusé sous le sol fragile de l'opulence, ils effraient le mauvais riche, comme au temps de la danse macabre, on lui montrait sa fosse béante et la mort prête à l'enlacer dans ses bras immondes. Aujourd'hui, on lui montre le bandit crochetant sa porte et l'assassin guettant son sommeil. Nous confessons que nous ne comprenons pas trop comment on le réconciliera avec l'humanité qu'il méprise, comment on le rendra sensible aux douleurs du pauvre qu'il redoute, en lui montrant ce pauvre sous la fourre du forçat évadé et du rôdeur de nuit. L'affreuse mort, grinçant des dents et jouant du violon dans les images d'Holbein et de ses devanciers, n'a pas trouvé moyen, sous cet aspect, de convertir les pervers et de consoler les victimes. Est-ce que notre littérature ne procéderait pas un peu en ceci comme les artistes du Moyen-Âge et de la Renaissance? Les buveurs d'Holbein remplissent leurs coupes avec une sorte de fureur pour écarter l'idée de la mort qui, invisible pour eux, leur sert des chansons. Les mauvais riches d'aujourd'hui demandent des fortifications et des canons pour écarter l'idée d'une jacquerie, que l'art leur montre travaillant dans l'ombre, en détail, en attendant le moment de fondre sur l'état social. L'Église du Moyen-Âge répondait aux terreurs des puissants de la terre par la vente des indulgences. Le gouvernement d'aujourd'hui calme l'inquiétude des riches en leur faisant payer beaucoup de gendarmes et de joailliers, de baïonnettes et de prisons. Albert Dürer, Michel-Ange, Holbein, Callot, Goya ont fait de puissantes satires des maux de leur siècle et de leur pays. Ce sont des œuvres immortelles, des pages historiques d'une valeur incontestable. Nous ne voulons donc pas dénier aux artistes le droit de sonder les plaies de la société et de les mettre à nu sous nos yeux. Mais n'y a-t-il pas autre chose à faire maintenant que la peinture d'épouvante et de menace? Dans cette littérature de mystère d'iniquité que le talent et l'imagination ont mise à la mode, nous aimons mieux les figures douces et suaves que les scélérats à effet dramatique. Celles-là peuvent entreprendre et amener des conversions. Les autres font peur. Et la peur ne guérit pas l'égoïsme. Elle l'augmente. Nous croyons que la mission de l'art est une mission de sentiment et d'amour, que le roman d'aujourd'hui devrait remplacer la parabole et l'apologue des temps naïfs, et que l'artiste a une tâche plus large et plus poétique que celle de proposer quelques mesures de prudence et de conciliation pour atténuer l'effroi qu'inspirent ses peintures. Son but devrait être de faire aimer les objets de sa sollicitude, et au besoin, je ne lui ferai pas un reproche de les embellir un peu. L'art n'est pas une étude de la réalité positive, c'est une recherche de la vérité idéale, et le vicaire de Wakefield fut un livre plus utile et plus sain à l'âme que le paysan perverti et les liaisons dangereuses. Lecteur, pardonnez-moi ces réflexions, et veuillez les accepter en manière de préface. Il n'y en aura point dans l'historiette que je vais vous raconter, et elle sera si courte et si simple que j'avais besoin de m'en excuser d'avance en vous disant ce que je pense des histoires terribles. C'est à propos d'un laboureur que je me suis laissé entraîner à cette digression. C'est l'histoire d'un laboureur précisément que j'avais l'intention de vous dire, et que je vous dirai tout à l'heure. Fin du chapitre 1. Cet enregistrement fait partie du domaine public. Chapitre 2 de La Mare au Diable. Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer, rendez-vous sur LibriVox.org. Enregistré par Ezoa. La Mare au Diable de George Sand. Chapitre 2. Le labour. Je venais de regarder longtemps, et avec une profonde mélancolie, le laboureur d'Holbein, et je me promenais dans la campagne, rêvant à la vie des champs et à la destinée du cultivateur. Sans doute, il est lugubre de consumer ses forces et ses jours à fendre le sein de cette terre jalouse qui se fait arracher les trésors de sa fécondité, lorsqu'un morceau de pain le plus noir et le plus grossier est, à la fin de la journée, l'unique récompense et l'unique profit attaché à un si dur labeur. Ces richesses qui couvrent le sol, ces moissons, ces fruits, ces bestiaux orgueilleux qui s'engraissent dans les longues herbes, sont la propriété de quelques-uns et les instruments de la fatigue et de l'esclavage du plus grand nombre. L'homme de loisir n'aime en général pour eux-mêmes ni les champs, ni les prairies, ni le spectacle de la nature, ni les animaux superbes qui doivent se convertir en pièces d'or pour son usage. L'homme de loisir vient chercher un peu d'air et de santé dans le séjour de la campagne, puis il retourne dépenser dans les grandes villes le fruit du travail de ses vassaux. De son côté, l'homme de travail est trop accablé, trop malheureux et trop effrayé de l'avenir pour jouir de la beauté des campagnes et des charmes de la vie rustique. Pour lui aussi, les champs dorés, les belles prairies, les animaux superbes représentent des sacs d'écus dont il n'aura qu'une faible part, insuffisante à ses besoins, et que pourtant, il faut remplir chaque année ces sacs maudits pour satisfaire le maître et payer le droit de vivre parcimonieusement et misérablement sur son domaine. Et pourtant, la nature est éternellement jeune, belle et généreuse. Elle verse la poésie et la beauté à tous les êtres, à toutes les plantes qu'on laisse s'y développer à souhait. Elle possède le secret du bonheur, et nul n'a su le lui ravir. Le plus heureux des hommes serait celui qui, possédant la science de son labeur et travaillant de ses mains, puisant le bien-être et la liberté dans l'exercice de sa force intelligente, aurait le temps de vivre par le cœur et par le cerveau, de comprendre son œuvre et d'aimer celle de Dieu. L'artiste a des jouissances de ce genre dans la contemplation et la reproduction des beautés de la nature. Mais, en voyant la douleur des hommes qui peuplent ce paradis de la terre, l'artiste au cœur droit et humain est troublé au milieu de sa jouissance. Le bonheur serait là où l'esprit, le cœur et les bras, travaillant de concert sous l'œil de la Providence, une sainte harmonie existerait entre la munificence de Dieu et les ravissements de l'âme humaine. C'est alors qu'au lieu de la piteuse et affreuse mort, marchant dans son sillon, le fouet à la main, le peintre d'allégorie pourrait placer à ses côtés un ange radieux, semant à pleine main le blé béni sur le sillon fumant. Et le rêve d'une existence douce, libre, poétique, laborieuse et simple pour l'homme des champs n'est pas si difficile à concevoir qu'on doive le reléguer parmi les chimères. Le mot triste et doux de Virgile, « Oh, heureux l'homme des champs, s'il connaissait son bonheur !» est un regret. Mais, comme tous les regrets, c'est aussi une prédiction. Un jour viendra où le laboureur pourra être aussi un artiste, sinon pour exprimer, ce qui importera assez peu alors, du moins pour sentir le beau. Croit-on que cette mystérieuse intuition de la poésie ne soit pas en lui déjà à l'état d'instinct et de vague rêverie? Chez ceux qu'un peu d'aisance protège dès aujourd'hui, et chez qui l'excès du malheur n'étouffe pas tout développement moral et intellectuel, le bonheur pur, senti et apprécié, est à l'état élémentaire. Et d'ailleurs, si du sein de la douleur et de la fatigue, des voix de poètes se sont déjà élevées, pourquoi dirait-on que le travail des bras est exclusif des fonctions de l'âme? Sans doute cette exclusion est le résultat général d'un travail excessif et d'une misère profonde. Mais qu'on ne dise pas que quand l'homme travaillera modérément et utilement, il n'y aura plus que de mauvais ouvriers et de mauvais poètes. Celui qui puise de nobles jouissances dans le sentiment de la poésie est un vrai poète, n'eût-il pas fait un vers dans toute sa vie. Mes pensées avaient pris ce cours, et je ne m'apercevais pas que cette confiance dans l'éducabilité de l'homme était fortifiée en moi par les influences extérieures. Je marchais sur la lisière d'un champ que des paysans étaient en train de préparer pour la semaille prochaine. L'arène était vaste comme celle du tableau d'Holbein. Le paysage était vaste aussi, et encadrait de grandes lignes de verdure, un peu rougies aux approches de l'automne, ce large terrain d'un brun vigoureux où des pluies récentes avaient laissé, dans quelques sillons, des lignes d'eau que le soleil faisait briller comme de minces filets d'argent. La journée était claire et tiède, et la terre, fraîchement ouverte par le tranchant des charrues, exhalait une vapeur légère. Dans le haut du champ, un vieillard, dont le dos large et la figure sévère rappelaient celle d'Holbein, mais dont les vêtements n'annonçaient pas la misère, poussait gravement son hareau de forme antique, traîné par deux bœufs tranquilles, à la robe d'un jaune pâle, véritable patriarche de la prairie, haut de taille, un peu maigre, les cornes longues et rabattues, de ces vieux travailleurs qu'une longue habitude a rendus « frères », comme on les appelle dans nos campagnes, et qui, privés l'un de l'autre, se refusent au travail avec un nouveau compagnon et se laissent mourir de chagrin. Les gens qui ne connaissent pas la campagne taxent de fable l'amitié du bœuf pour son camarade d'attelage. Qu'ils viennent voir au fond de l'étable un pauvre animal maigre, exténué, battant de sa queue inquiète ses flancs décharnés, soufflant avec effroi et dédain sur la nourriture qu'on lui présente, les yeux toujours tournés vers la porte, en grattant du pied la place vide à ses côtés, flairant les joues et les chaînes que son compagnon a portées, et l'appelant sans cesse avec de déplorables mugissements. Le bouvier dira « C'est une paire de bœufs perdus. Son frère est mort, et celui-là ne travaillera plus. Il faudrait pouvoir l'engraisser pour l'abattre, mais il ne veut pas manger, et bientôt il sera mort de faim. » Le vieux laboureur travaillait lentement, en silence, sans efforts inutiles. Son docile attelage ne se pressait pas plus que lui, mais, grâce à la continuité d'un labeur sans distraction et d'une dépense de forces éprouvées et soutenues, son sillon était aussi vite creusé que celui de son fils qui menait, à quelque distance, quatre bœufs moins robustes, dans une veine de terre plus forte et plus pierreuse. Mais ce qui attira ensuite mon attention était véritablement un beau spectacle, un noble sujet pour un peintre. À l'autre extrémité de la plaine labourable, un jeune homme de bonne mine conduisait un attelage magnifique. Quatre paires de jeunes animaux à robes sombres, mêlées de noirs fauves à reflets de feu, avec ses têtes courtes et frisées qui sentent encore le taureau sauvage, ses gros yeux farouches, ses mouvements brusques, ce travail nerveux et saccadé qui s'irrite encore du joug et de l'aiguillon et n'obéit qu'en frémissant de colère à la domination nouvellement imposée. C'est ce qu'on appelle des bœufs fraîchement liés. L'homme qui les gouvernait avait à défricher un coin naguère abandonné au pâturage et rempli de souches séculaires, travail d'athlète auquel suffisait à peine son énergie, sa jeunesse et ses 8 animaux quasi indomptés. Un enfant de 6 à 7 ans, beau comme un ange, et les épaules couvertes sur sa blouse d'une peau d'agneau qui le faisait ressembler au petit saint Jean-Baptiste des peintres de la Renaissance, marchait dans le sillon parallèle à la charrue et piquait le flanc des bœufs avec une gaule longue et légère, armée d'un aiguillon peu acéré. Les fiers animaux frémissaient sous la petite main de l'enfant et faisaient grincer les joues et les courroies liées à leur front en imprimant au timon de violentes secousses. Lorsqu'une racine arrêtait le soc, le laboureur criait d'une voix puissante, appelant chaque bête par son nom, mais plutôt pour calmer que pour exciter, car les bœufs, irrités par cette brusque résistance, bondissaient, creusaient la terre de leurs larges pieds fourchus, et se seraient jetés de côté emportant l'arreau à travers champ si, de la voix et de l'aiguillon, le jeune homme n'eût maintenu les 4 premiers, tandis que l'enfant gouvernait les 4 autres. Il criait aussi, le pauvret, d'une voix qu'il voulait rendre terrible et qui restait douce comme sa figure angélique. Tout cela était beau de force et de grâce, le paysage, l'homme, l'enfant, les taureaux sous le joug, et malgré cette lutte puissante où la terre était vaincue, il y avait un sentiment de douceur et de calme profond qui planait sur toute chose. Quand l'obstacle était surmonté et que l'attelage reprenait sa marche égale et solennelle, le laboureur, dont la feinte violence n'était qu'un exercice de vigueur et une dépense d'activité, reprenait tout à coup la sérénité des âmes simples et jetait un regard de contentement paternel sur son enfant qui se retournait pour lui sourire. Puis la voix mâle de ce jeune père de famille entonnait le chant solennel et mélancolique que l'antique tradition du pays transmet, non à tous les laboureurs indistinctement, mais aux plus consommés dans l'art d'exciter et de soutenir l'ardeur des bœufs de travail. Ce chant, dont l'origine fut peut-être considérée comme sacrée, et auquel de mystérieuses influences ont dû être attribuées jadis, est réputée encore aujourd'hui posséder la vertu d'entretenir le courage de ces animaux, d'apaiser leur mécontentement et de charmer l'ennui de leur longue besogne. Il ne suffit pas de savoir bien les conduire en traçant un sillon parfaitement rectiligne, de leur alléger la peine en soulevant ou en fonçant à point le fer dans la terre. On n'est point un parfait laboureur si on ne sait chanter aux bœufs, et c'est là une science à part qui exige un goût et des moyens particuliers. Ce chant n'est, à vrai dire, qu'une sorte de récitatif interrompu et repris à volonté. Sa forme irrégulière et ses intonations fausses selon les règles de l'art musical le rendent intraduisible. Mais ce n'en est pas moins un beau chant, et tellement approprié à la nature du travail qui l'accompagne, à l'allure du bœuf, au calme des lieux agrestes, à la simplicité des hommes qui le disent, qu'aucun génie étranger au travail de la terre ne l'eût inventé, et qu'aucun chanteur autre qu'un fin laboureur de cette contrée ne saurait le redire. Aux époques de l'année où il n'y a pas d'autre travail et d'autre mouvement dans la campagne que celui du labourage, ce chant si doux et si puissant monte comme une voix de la brise à laquelle sa tonalité particulière donne une certaine ressemblance. La note finale de chaque phrase, tenue et tremblée avec une longueur et une puissance d'haleine incroyables, monte d'un quart de ton en faussant systématiquement. Cela est sauvage, mais le charme en est indicible, et quand on s'est habitué à l'entendre, on ne conçoit pas qu'un autre chant puisse s'élever à ces heures et dans ces lieux-là sans en déranger l'harmonie. Il se trouvait donc que j'avais sous les yeux un tableau qui contrastait avec celui d'Holbein, quoique ce fût une scène pareille. Au lieu d'un triste vieillard, un homme jeune et dispos. Au lieu d'un attelage de chevaux efflanqués et harassés, un double quadrige de bœufs robustes et ardents. Au lieu de la mort, un bel enfant. Au lieu d'une image de désespoir et d'une idée de destruction, un spectacle d'énergie et une pensée de bonheur. C'est alors que le quatrain français, « À la sueur de ton visage », etc., et le « O Fortunatos Agricolas » de Virgile, me revinrent ensemble à l'esprit, et qu'en voyant ce couple si beau, l'homme et l'enfant, accomplir dans des conditions si poétiques et avec tant de grâce unies à la force, un travail plein de grandeur et de solennité, je sentis une pitié profonde mêlée à un regret involontaire. Heureux le laboureur. Oui, sans doute, je le serais à sa place, si mon bras devenu tout d'un coup robuste et ma poitrine devenue puissante pouvait ainsi féconder et chanter la nature sans que mes yeux cessassent de voir et mon cerveau de comprendre l'harmonie des couleurs et des sons, la finesse des tons et la grâce des contours, en un mot, la beauté mystérieuse des choses. Et surtout, sans que mon cœur cessât d'être en relation avec le sentiment divin qui a présidé à la création immortelle et sublime. Mais hélas, cet homme n'a jamais compris le mystère du beau. Cet enfant ne le comprendra jamais. Dieu me préserve de croire qu'ils ne soient pas supérieurs aux animaux qu'ils dominent et qu'il n'est pas par instant une sorte de révélation extatique qui charme leur fatigue et endort leurs soucis. Je vois sur leur noble front le sceau du Seigneur, car ils sont nés rois de la terre bien mieux que ceux qui la possèdent pour l'avoir payée. Et la preuve qu'ils le sentent, c'est qu'on ne les dépayserait pas impunément, c'est qu'ils aiment ce sol arrosé de leur sueur, c'est que le vrai paysan meurt de nostalgie sous le harnais du soldat, loin du champ qu'il a vu naître. Mais il manque à cet homme une partie des jouissances que je possède, jouissances immatérielles qui lui seraient bien dues à lui, l'ouvrier du vaste temple que le ciel est assez vaste pour embrasser. Il lui manque la connaissance de son sentiment. Ceux qui l'ont condamné à la servitude dès le ventre de sa mère, ne pouvant lui ôter la rêverie, lui ont ôté la réflexion. Eh bien, tel qu'il est, incomplet et condamné à une éternelle enfance, il est encore plus beau que celui chez qui la science a étouffé le sentiment. Ne vous élevez pas au-dessus de lui, vous autres qui vous croyez investis du droit légitime et imprescriptible de lui commander, car cette erreur effroyable où vous êtes prouve que votre esprit a tué votre cœur et que vous êtes les plus incomplets et les plus aveugles des hommes. J'aime encore mieux cette simplicité de son âme que les fausses lumières de la vôtre. Et si j'avais à raconter sa vie, j'aurais plus de plaisir à en faire ressortir les côtés doux et touchants que vous n'avez de mérite à peindre l'abjection où les rigueurs et les mépris de vos préceptes sociaux peuvent le précipiter. Je connaissais ce jeune homme et ce bel enfant. Je savais leur histoire, car ils avaient une histoire. Tout le monde a la sienne. Et chacun pourrait intéresser au roman de sa propre vie s'il l'avait compris. Quoique paysan et simple laboureur, Germain s'était rendu compte de ses devoirs et de ses affections. Il me les avait racontés naïvement, clairement, et je l'avais écouté avec intérêt. Quand je l'eus regardé labourer assez longtemps, je me demandais pourquoi son histoire ne serait pas écrite, quoique ce fût une histoire aussi simple, aussi droite et aussi peu ornée que le sillon qu'il traçait avec sa charrue. L'année prochaine, ce sillon sera comblé et couvert par un sillon nouveau. Ainsi s'imprime et disparaît la trace de la plupart des hommes dans le champ de l'humanité. Un peu de terre l'efface, et les sillons que nous avons creusés se succèdent les uns aux autres comme les tombes dans le cimetière. Le sillon du laboureur ne vaut-il pas celui de l'oisif, qui a pourtant un nom qui restera si, par une singularité ou une absurdité quelconque, il fait un peu de bruit dans le monde? Eh bien, arrachons, s'il se peut, au néant de l'oubli, le sillon de Germain, le fin laboureur. Il n'en saura rien et ne s'en inquiétera guère, mais j'aurai eu quelque plaisir à le tenter. Fin du chapitre 2. Cet enregistrement fait partie du domaine public. Chapitre 3 de La Mare au Diable. Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer, rendez-vous sur LibriVox.org. Enregistré par Ezoa. La Mare au Diable de George Sand. Chapitre 3. Le Père Maurice.
Germain, lui dit un jour son beau-père, il faut pourtant te décider à reprendre femme. Voilà bientôt 2 ans que tu es veuf de ma fille et ton aîné a 7 ans. Tu approches de la trentaine, mon garçon, et tu sais que, passé cet âge-là, dans nos pays, un homme est réputé trop vieux pour rentrer en ménage. Tu as 3 beaux enfants, et jusqu'ici, ils ne nous ont point embarrassés. Ma femme et ma bru les ont soignés de leur mieux et les ont aimés comme elles le devaient. Voilà petit Pierre quasi élevé, il pique déjà les bœufs assez gentiment, il est assez sage pour garder les bêtes au pré, et assez fort pour mener les chevaux à l'abreuvoir. Ce n'est donc pas celui-là qui nous gêne, mais les 2 autres, que nous aimons pourtant, Dieu le sait, les pauvres innocents nous donnent cette année beaucoup de soucis. Ma bru est près d'accoucher, et elle en a encore un tout petit sur les bras. Quand celui que nous attendons sera venu, elle ne pourra plus s'occuper de ta petite Solange, et surtout de ton Sylvain, qui n'a que 4 ans, et qui ne se tient guère en repos ni le jour ni la nuit. C'est un sang vif comme toi. Ça fera un bon ouvrier, mais ça fait un terrible enfant. Et ma vieille ne court plus assez vite pour le rattraper quand il se sauve du côté de la fosse ou quand il se jette sous les pieds des bêtes. Et puis, avec cet autre que ma bru va mettre au monde, son avant-dernier va retomber pendant 1 an au moins sur les bras de ma femme. Donc tes enfants nous inquiètent et nous surchargent. Nous n'aimons pas avoir des enfants mal soignés. Et quand on pense aux accidents qui peuvent leur arriver faute de surveillance, on n'a pas la tête en repos. Il te faut donc une autre femme et à moi une autre bru. Songe-y, mon garçon. Je t'ai déjà averti plusieurs fois, le temps se passe, les années ne t'attendront point. Tu dois à tes enfants et à nous autres, qui voulons que tout aille bien dans la maison, de te marier au plus tôt. « Eh bien, mon père, répondit le gendre, si vous le voulez absolument, il faudra donc vous contenter. Mais je ne veux pas vous cacher que cela me fera beaucoup de peine et que je n'en ai guère plus d'envie que de me noyer. On sait qui on perd et on ne sait pas qui l'on trouve. J'avais une brave femme, une belle femme, douce, courageuse, bonne à ses pères et mères, bonne à son mari, bonne à ses enfants, bonne au travail, au champ comme à la maison, adroite à l'ouvrage, bonne à tout enfin. Et quand vous me l'avez donnée, quand je l'ai prise, nous n'avions pas mis dans nos conditions que je viendrais à l'oublier si j'avais le malheur de la perdre. « Ce que tu dis là est d'un bon cœur, Germain, » reprit le père Maurice. « Je sais que tu as aimé ma fille, que tu l'as rendue heureuse, et que, si tu avais pu contenter la mort en passant à sa place, Catherine serait en vie alors qu'il est, et toi dans le cimetière. » Elle méritait bien d'être aimée de toi à ce point-là, et si tu ne t'en consoles pas, nous ne nous en consolons pas non plus. Mais je ne te parle pas de l'oublier. Le bon Dieu a voulu qu'elle nous quittât, et nous ne passons pas 1 jour sans lui faire savoir par nos prières, nos pensées, nos paroles et nos actions que nous respectons son souvenir et que nous sommes fâchés de son départ. Mais si elle pouvait te parler de l'autre monde et te donner à connaître sa volonté, elle te commanderait de chercher une mère pour ses petits orphelins. Il s'agit donc de rencontrer une femme qui soit digne de la remplacer. Ce ne sera pas bien aisé, mais ce n'est pas impossible. Et quand nous te l'aurons trouvée, tu l'aimeras comme tu aimais ma fille, parce que tu es un honnête homme et que tu lui sauras gré de nous rendre service et d'aimer tes enfants. « C'est bien, père Maurice, » dit Germain. « Je ferai votre volonté comme je l'ai toujours faite. » « C'est une justice à te rendre, mon fils, que tu as toujours écouté l'amitié et les bonnes raisons de ton chef de famille. Avisons donc ensemble au choix de ta nouvelle femme. » D'abord, je ne suis pas d'avis que tu prennes une jeunesse. Ce n'est pas ce qu'il te faut. La jeunesse est légère, et comme c'est un fardeau d'élever 3 enfants, surtout quand ils sont d'un autre lit, il faut une bonne âme bien sage, bien douce et très portée au travail. Si ta femme n'a pas environ le même âge que toi, elle n'aura pas assez de raisons pour accepter un pareil devoir. Elle te trouvera trop vieux et tes enfants trop jeunes. Elle se plaindra et tes enfants pâtiront.
Voilà justement ce qui m'inquiète, dit Germain. Si ces pauvres petits venaient à être maltraités, haïs, battus...
À Dieu ne plaise, reprit le vieillard. Mais les méchantes femmes sont plus rares dans notre pays que les bonnes, et il faudrait être fou pour ne pas mettre la main sur celle qui convient.
C'est vrai, mon père. Il y a de bonnes filles dans notre village. Il y a la Louise, la Sylvaine, la Claudie, la Marguerite, enfin, celles que vous voudrez.
Doucement, doucement, mon garçon. Toutes ces filles-là sont trop jeunes ou trop pauvres, ou trop jolies filles. Car enfin, il faut penser à cela aussi, mon fils. Une jolie femme n'est pas toujours aussi rangée qu'une autre.
« Vous voulez donc que j'en prenne une laide ?» dit Germain un peu inquiet.
« Non, point laide, car cette femme te donnera d'autres enfants, et il n'y a rien de si triste que d'avoir des enfants laids, chétifs et malsains. Mais une femme encore fraîche, d'une bonne santé, et qui ne soit ni belle ni laide, ferait très bien ton affaire. »
« Je vois bien, » dit Germain en souriant un peu tristement, « que, pour la voir telle que vous la voulez, il faudra la faire faire exprès. » D'autant plus que vous ne la voulez point pauvre et que les riches ne sont pas faciles à obtenir, surtout pour un veuf.
Et si elle était veuve elle-même, Germain? Là, une veuve sans enfant et avec un bon bien.
Je n'en connais pas pour le moment dans notre paroisse.
Ni moi non plus, mais il y en a ailleurs.
Vous avez quelqu'un en vue, mon père? Alors dites-le tout de suite. Fin du chapitre 3. Cet enregistrement fait partie du domaine public.
Chapitre 4 de La Mare au Diable. Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer, rendez-vous sur LibriVox.org. Enregistré par Ezoie. La Mare au Diable de George Sand. Chapitre 4. Germain, le fin laboureur.
Oui, j'ai quelqu'un en vue, répondit le père Maurice. C'est une Léonard, veuve d'un Guérin, qui demeure à Fourche.
Je ne connais ni la femme ni l'endroit, répondit Germain résigné, mais de plus en plus triste.
« Elle s'appelle Catherine, comme ta défunte. »«
Catherine ? Oui, ça me fera plaisir d'avoir à dire ce nom-là. »« Catherine. Et pourtant, si je ne peux pas l'aimer autant que l'autre, ça me fera encore plus de peine, ça me la rappellera plus souvent. »«
Je te dis que tu l'aimeras. C'est un bon sujet, une femme de grand cœur. Je ne l'ai pas vue depuis longtemps. Elle n'était pas laide fille alors. Mais elle n'est plus jeune, elle a 32 ans. Elle est d'une bonne famille, tous braves gens. » Et elle a bien pour 8 ou 10 000 francs de terre qu'elle vendrait volontiers pour en acheter d'autres dans l'endroit où elle s'établirait. Car elle songe aussi à se remarier, et je sais que, si ton caractère lui convenait, elle ne trouverait pas ta position mauvaise.
Vous avez donc déjà arrangé tout cela?
Oui, sauf votre avis à tous les deux, et c'est ce qu'il faudrait vous demander l'un à l'autre en faisant connaissance. Le père de cette femme-là est un peu mon parent, et il a été beaucoup mon ami. Tu le connais bien, le père Léonard.
Oui, je l'ai vu vous parler dans les foires, et à la dernière vous avez déjeuné ensemble. C'est donc de cela qu'il vous entretenait si longuement?
Sans doute. Il te regardait vendre tes bêtes, et il trouvait que tu t'y prenais bien, que tu étais un garçon de bonne mine, que tu paraissais actif et entendu. Et quand je lui eus dit tout ce que tu es, et comme tu te conduis bien avec nous, depuis 8 ans que nous vivons et travaillons ensemble, sans avoir jamais eu un mot de chagrin ou de colère, il s'est mis dans la tête de te faire épouser sa fille. Ce qui me convient aussi, je te le confesse, d'après la bonne renommée qu'elle a, d'après l'honnêteté de sa famille et les bonnes affaires où je sais qu'ils sont.
Je vois, père Maurice, que vous tenez un peu aux bonnes affaires.
Sans doute j'y tiens. Est-ce que tu n'y tiens pas aussi?
J'y tiens, si vous voulez, pour vous faire plaisir, mais vous savez que, pour ma part, je ne m'embarrasse jamais de ce qui me revient ou de ce qui ne me revient pas dans nos profits. Je ne m'entends pas à faire des partages, et ma tête n'est pas bonne pour ces choses-là. Je connais la terre, je connais les bœufs, les chevaux, les attelages, les semences, la battaison, les fourrages. Pour les moutons, la vigne, le jardinage, les menus profits et la culture fine, vous savez que ça regarde votre fils et que je ne m'en mêle pas beaucoup. Quant à l'argent, ma mémoire est courte, et j'aimerais mieux tout céder que de disputer sur le tien et le mien. Je craindrais de me tromper et de réclamer ce qui ne m'est pas dû, et si les affaires n'étaient pas simples et claires, je ne m'y retrouverais jamais.
C'est tant pis, mon fils, et voilà pourquoi j'aimerais que tu eusses une femme de tête pour me remplacer quand je n'y serai plus. Tu n'as jamais voulu voir clair dans nos comptes, et ça pourrait amener du désagrément avec mon fils, quand vous ne m'aurez plus pour vous mettre d'accord et vous dire ce qui vous revient à chacun.
puissiez-vous vivre longtemps, père Maurice. Mais ne vous inquiétez pas de ce qui sera après vous. Jamais je ne me disputerai avec votre fils. Je me fie à Jacques comme à vous-même, et comme je n'ai pas de bien à moi, que tout ce qui peut me revenir provient de votre fille et appartient à nos enfants, je peux être tranquille et vous aussi. Jacques ne voudrait pas dépouiller les enfants de sa sœur pour les siens, puisqu'il les aime quasi autant les uns que les autres. Tu as raison en cela, Germain. Jacques est un bon fils, un bon frère et un homme qui aime la vérité. Mais Jacques peut mourir avant toi, avant que vos enfants soient élevés, et il faut toujours songer, dans une famille, à ne pas laisser des mineurs sans un chef pour les bien conseiller et régler leurs différends. Autrement, les gens de loi s'en mêlent, les brouillent ensemble et leur font tout manger en procès. Ainsi donc, nous ne devons pas penser à mettre chez nous une personne de plus, soit homme, soit femme, sans nous dire qu'un jour, cette personne-là aura peut-être à diriger la conduite et les affaires d'une trentaine d'enfants, petits-enfants, gendres et brus. On ne sait pas combien une famille peut s'accroître, et quand la ruche est trop pleine, qu'il faut essaimer, chacun songe à emporter son miel. Quand je t'ai pris pour gendre, quoique ma fille fût riche et toi pauvre, je ne lui ai pas fait reproche de t'avoir choisi. Je te voyais bon travailleur, et je savais bien que la meilleure richesse pour des gens de campagne comme nous, c'est une paire de bras et un cœur comme les tiens. Quand un homme apporte cela dans une famille, il apporte assez. Mais une femme, c'est différent. Son travail dans la maison est bon pour conserver, non pour acquérir. D'ailleurs, à présent que tu es père et que tu cherches femme, il faut songer que tes nouveaux enfants, n'ayant rien à prétendre dans l'héritage de ceux du premier lit, se trouveraient dans la misère si tu venais à mourir, à moins que ta femme n'eût quelque bien de son côté. Et puis, les enfants dont tu vas augmenter notre colonie coûteront quelque chose à nourrir. Si cela retombait sur nous seuls, nous les nourririons, bien certainement, et sans nous en plaindre. Mais le bien-être de tout le monde en serait diminué, et les premiers enfants auraient leur part de privation là-dedans. Quand les familles augmentent outre mesure sans que le bien augmente en proportion, la misère vient, quelque courage qu'on y mette. Voilà mes observations, Germain. Pèse-les, et tâche de te faire agréer à la veuve Guérin, car sa bonne conduite et ses écus apporteront ici de l'aide dans le présent et de la tranquillité pour l'avenir. C'est dit, mon père. Je vais tâcher de lui plaire et qu'elle me plaise. Pour cela, il faut la voir et aller la trouver. Dans son endroit, à Fourche, c'est loin d'ici, n'est-ce pas? Et nous n'avons guère le temps de courir dans cette saison. Quand il s'agit d'un mariage d'amour, il faut s'attendre à perdre du temps. Mais quand c'est un mariage de raison entre deux personnes qui n'ont pas de caprices et savent ce qu'elles veulent, c'est bientôt décidé. C'est demain samedi. Tu feras ta journée de labour un peu courte, tu partiras vers les 2 heures après dîner, tu seras à Fourche à la nuit. La lune est grande dans ce moment-ci, les chemins sont bons, et il n'y a pas plus de 3 lieues de pays. C'est près de Magné. D'ailleurs, tu prendras la jument. J'aimerais autant aller à pied par ce temps frais. Oui, mais la jument est belle, et un prétendu qui arrive aussi bien monté à meilleur air. Tu mettras tes habits neufs et tu porteras un joli présent de gibier au père Léonard. Tu arriveras de ma part, tu causeras avec lui, tu passeras la journée du dimanche avec sa fille et tu reviendras avec un oui ou un non lundi matin. C'est entendu, répondit tranquillement Germain. Et pourtant, il n'était pas tout à fait tranquille. Germain avait toujours vécu sagement comme vivent les paysans laborieux. Marié à 20 ans, il n'avait aimé qu'une femme dans sa vie et, depuis son veuvage, quoiqu'il fût d'un caractère impétueux et enjoué, il n'avait ri et folâtré avec aucune autre. Il avait porté fidèlement un véritable regret dans son cœur, et ce n'était pas sans crainte et sans tristesse qu'il cédait à son beau-père. Mais le beau-père avait toujours gouverné sagement la famille, et Germain, qui s'était dévoué tout entier à l'œuvre commune, et par conséquent, à celui qui la personnifiait, au père de famille, Germain ne comprenait pas qu'il eût pu se révolter contre de bonnes raisons, contre l'intérêt de tous. Néanmoins, il était triste. Il se passait peu de jours qu'il ne pleurât sa femme en secret, et quoique la solitude commençât à lui peser, il était plus effrayé de former une union nouvelle que désireux de se soustraire à son chagrin. Il se disait vaguement que l'amour eût pu le consoler, en venant le surprendre, car l'amour ne console pas autrement. On ne le trouve pas quand on le cherche, il vient à nous quand nous ne l'attendons pas. Ce froid projet de mariage que lui montrait le père Maurice, cette fiancée inconnue, peut-être même tout ce bien qu'on lui disait de sa raison et de sa vertu, lui donnait à penser. Et il s'en allait, songeant, comme songent les hommes qui n'ont pas assez d'idées pour qu'elles se combattent entre elles, c'est-à-dire ne se formulant pas à lui-même de belles raisons de résistance et d'égoïsme, mais souffrant d'une douleur sourde et ne luttant pas contre un mal qu'il fallait accepter. Cependant, le père Maurice était rentré à la métairie, tandis que Germain, entre le coucher du soleil et la nuit, occupait la dernière heure du jour à fermer les brèches que les moutons avaient faites à la bordure d'un enclos voisin des bâtiments. Il relevait les tiges d'épines et les soutenait avec des mottes de terre, tandis que les griffes babillaient dans le buisson voisin et semblaient lui crier de se hâter, curieuses qu'elles étaient de venir examiner son ouvrage aussitôt qu'il serait parti. Fin du chapitre 4. Cet enregistrement fait partie du domaine public.
Chapitre 5 de La Mare au Diable. Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer, rendez-vous sur LibriVox.org. Enregistré par Ezoie. La Mare au Diable de George Sand. Chapitre 5. La Guillette. Le père Maurice trouva chez lui une vieille voisine qui était venue causer avec sa femme, tout en cherchant de la braise pour allumer son feu. La mère Guillette habitait une chaumière fort pauvre à deux portées de fusil de la ferme. Mais c'était une femme d'ordre et de volonté. Sa pauvre maison était propre et bien tenue, et ses vêtements, rapiécés avec soin, annonçaient le respect de soi-même au milieu de la détresse.
« Vous êtes venue chercher le feu du soir, mère Guillette, » lui dit le vieillard. « Voulez-vous quelque autre chose ?»«
Non, père Maurice, » répondit-elle, « rien pour le moment. Je ne suis pas quémandeuse, vous le savez, et je n'abuse pas de la bonté de mes amis. »«
C'est la vérité. Aussi vos amis sont toujours prêts à vous rendre service. »
« J'étais en train de causer avec votre femme, et je lui demandais si Germain se décidait enfin à se remarier. »«
Vous n'êtes point une bavarde, » répondit le père Maurice. « On peut parler devant vous sans craindre les propos. Ainsi, je dirai à ma femme et à vous que Germain est tout à fait décidé. Il part demain pour le domaine de Fourche. »«
À la bonne heure !» s'écria la mère Maurice. « Ce pauvre enfant ! Dieu veuille qu'il trouve une femme aussi bonne et aussi brave que lui. »«
Ah ! Il va à Fourche ?» observa la Guillette.
« Voyez comme ça se trouve. Cela m'arrange beaucoup. Et puisque vous me demandiez tout à l'heure si je désirais quelque chose, je vais vous dire, père Maurice, en quoi vous pouvez m'obliger. »«
Dites, dites, vous obligez, nous le voulons. »«
Je voudrais que Germain prît la peine d'emmener ma fille avec lui. »«
Où donc, à Fourche ?»«
Non, pas à Fourche, mais aux Ormeaux, où elle va demeurer le reste de l'année. »«
Comment ?» dit la mère Maurice. « Vous vous séparez de votre fille ?»«
Il faut bien qu'elle entre en condition et qu'elle gagne quelque chose. » « Ça me fait assez de peine, et à elle aussi, la pauvre âme. Nous n'avons pas pu nous décider à nous quitter à l'époque de la Saint-Jean, mais voilà que la Saint-Martin arrive et qu'elle trouve une bonne place de bergère dans les fermes des Ormeaux. Le fermier passait l'autre jour par ici en revenant de la foire. Il vit ma petite Marie qui gardait ses trois moutons sur le communal.
« Vous n'êtes guère occupée, ma petite fille, » qu'il lui dit, « et trois moutons pour une pastour, ce n'est guère. Voulez-vous en garder 100 ? Je vous emmène. La bergère de chez nous est tombée malade. Elle retourne chez ses parents. » Et si vous voulez être chez nous avant 8 jours, vous aurez 50 francs pour le reste de l'année jusqu'à la Saint-Jean. »
L'enfant a refusé, mais elle n'a pu se défendre d'y songer et de me le dire lorsqu'en rentrant le soir, elle m'a vue triste et embarrassée de passer l'hiver qui va être rude et long, puisqu'on a vu cette année les grues et les oies sauvages traverser les airs un grand mois plus tôt que de coutume. Nous avons pleuré toutes deux, mais enfin le courage est venu. Nous nous sommes dit que nous ne pouvions pas rester ensemble, puisqu'il y a à peine de quoi faire vivre une seule personne sur notre lopin de terre. Et puisque Marie est en âge, la voilà qui prend 16 ans, il faut bien qu'elle fasse comme les autres, qu'elle gagne son pain et qu'elle aide sa pauvre mère.
« Mère Guillette, » dit le vieux laboureur, « s'il ne fallait que 50 francs pour vous consoler de vos peines et vous dispenser d'envoyer votre enfant au loin, vrai, je vous les ferai trouver, quoique 50 francs pour des gens comme nous, ça commence à peser. Mais en toute chose, il faut consulter la raison autant que l'amitié. » Pour être sauvé de la misère de cet hiver, vous ne le serez pas de la misère à venir, et plus votre fille tardera à prendre un parti, plus elle et vous aurez de peine à vous quitter. La petite Marie se fait grande et forte, et elle n'a pas de quoi s'occuper chez vous. Elle pourrait y prendre l'habitude de la fainéantise.
« Oh, pour cela je ne le crains pas, » dit la Guillette. « Marie est courageuse autant que fille riche et à la tête d'un gros travail puisse être. Elle ne reste pas un instant les bras croisés, et quand nous n'avons pas d'ouvrage, elle nettoie et frotte nos pauvres meubles qu'elle rend clairs comme des miroirs. C'est une enfant qui vaut son pesant d'or, et j'aurais bien mieux aimé qu'elle entrât chez vous comme bergère que d'aller si loin chez des gens que je ne connais pas. Vous l'auriez prise à la Saint-Jean si nous avions su nous décider. Mais à présent vous avez loué tout votre monde, et ce n'est qu'à la Saint-Jean de l'autre année que nous pourrons y songer. Et j'y consens de tout mon cœur, Guillette. Cela me fera plaisir. Mais en attendant, elle fera bien d'apprendre un état et de s'habituer à servir les autres.
« Oui, sans doute. Le sort en est jeté. Le fermier des Ormeaux l'a fait demander ce matin. Nous avons dit oui, et il faut qu'elle parte. Mais la pauvre enfant ne sait pas le chemin, et je n'aimerais pas à l'envoyer si loin toute seule. Puisque votre gendre va à Fourche demain, il peut bien l'emmener. Il paraît que c'est tout à côté du domaine où elle va, ce qu'on m'a dit, car je n'ai jamais fait ce voyage-là.
C'est tout à côté, et mon gendre la conduira. Cela se doit. Il pourra même la prendre en croupe sur la jument, ce qui ménagera ses souliers. Le voilà qui rentre pour souper.
Dis-moi, Germain, la petite Marie à la mère Guillette s'en va bergère aux Ormeaux. Tu la conduiras sur ton cheval, n'est-ce pas ?
C'est bien, répondit Germain qui était soucieux, mais toujours disposé à rendre service à son prochain.
Dans notre monde à nous, pareille chose ne viendrait pas à la pensée d'une mère de confier une fille de 16 ans à un homme de 28, car Germain n'avait réellement que 28 ans. Et quoique, selon les idées de son pays, il passât pour vieux au point de vue du mariage, il était encore le plus bel homme de l'endroit. Le travail ne l'avait pas creusé et flétri comme la plupart des paysans qui ont 10 années de labourage sur la tête. Il était de force à labourer encore 10 ans sans paraître vieux, et il eût fallu que le préjugé de l'âge fût bien fort sur l'esprit d'une jeune fille pour l'empêcher de voir que Germain avait le teint frais, l'œil vif et bleu comme le ciel de mai, la bouche rose, des dents superbes, le corps élégant et souple comme celui d'un jeune cheval qui n'a pas encore quitté le pré. Mais la chasteté des mœurs est une tradition sacrée dans certaines campagnes éloignées du mouvement corrompu des grandes villes, et entre toutes les familles de Bel Air, la famille de Maurice était réputée honnête et servant la vérité. Germain s'en allait chercher femme. Marie était une enfant trop jeune et trop pauvre pour qu'il y songeât dans cette vue, et, à moins d'être un sans-cœur et un mauvais homme, il était impossible qu'il eût une coupable pensée auprès d'elle. Le père Maurice ne fut donc nullement inquiet de lui voir prendre en croupe cette jolie fille. La Guillette eût cru lui faire injure si elle lui eût recommandé de la respecter comme sa sœur. Marie monta sur la jument en pleurant, après avoir 20 fois embrassé sa mère et ses jeunes amis. Germain, qui était triste pour son compte, compatissait d'autant plus à son chagrin, et s'en alla d'un air sérieux, tandis que les gens du voisinage disaient adieu de la main à la pauvre Marie, sans songer à mal. Fin du chapitre 5. Cet enregistrement fait partie du domaine public.
Chapitre 6 de La Mare au Diable. Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer, rendez-vous sur LibriVox.org. Enregistré par Ezoie. La Mare au Diable de George Sand. Chapitre 6. Petit Pierre. La Grise était jeune, belle et vigoureuse. Elle portait sans effort son double fardeau, couchant les oreilles et rongeant son frein, comme une fière et ardente jument qu'elle était. En passant devant le pré long, elle aperçut sa mère, qui s'appelait la vieille Grise, comme elle la jeune Grise, et elle hennit en signe d'adieu. La vieille Grise approcha de la haie en faisant résonner ses enferges, essaya de galoper sur la marge du pré pour suivre sa fille. Puis, la voyant prendre le grand trot, elle hennit à son tour, et resta pensive, inquiète, le nez au vent, la bouche pleine d'herbes qu'elle ne songeait plus à manger. « Cette pauvre bête connaît toujours sa progéniture, » dit Germain pour distraire la petite Marie de son chagrin. « Ça me fait penser que je n'ai pas embrassé mon petit Pierre avant de partir. Le mauvais enfant n'était pas là. Il voulait, hier au soir, me faire promettre de l'emmener, et il a pleuré pendant 1 heure dans son lit. Ce matin encore, il a tout essayé pour me persuader. Oh, qu'il est adroit et câlin! Mais quand il a vu que ça ne se pouvait pas, « Monsieur s'est fâché. Il est parti dans les champs, et je ne l'ai pas revu de la journée. »«
Moi, je l'ai vu, » dit la petite Marie en faisant effort pour rentrer ses larmes. « Il courait avec les enfants de Soulas du côté des tailles, et je me suis bien douté qu'il était hors de la maison depuis longtemps, car il avait faim et mangeait des prunelles et des mûres de buisson. Je lui ai donné le pain de mon goûter, et il m'a dit, « Merci, ma Marie mignonne. Quand tu viendras chez nous, je te donnerai de la galette. » « C'est un enfant trop gentil que vous avez là, Germain. »«
Oui qu'il est gentil, » reprit le laboureur, « et je ne sais pas ce que je ne ferais pas pour lui. Si sa grand-mère n'avait pas eu plus de raison que moi, je n'aurais pas pu me tenir de l'emmener, quand je le voyais pleurer si fort que son pauvre petit cœur en était tout gonflé. Eh bien, pourquoi ne l'auriez-vous pas emmené, Germain? Il ne vous aurait guère embarrassé? Il est si raisonnable quand on fait sa volonté. »
« Il paraît qu'il aurait été de trop là où je vais. » Du moins, c'était l'avis du père Maurice.
Moi, pourtant, j'aurais pensé qu'au contraire, il fallait voir comment on le recevrait, et qu'un si gentil enfant ne pouvait qu'être pris en bonne amitié. Mais ils disent à la maison qu'il ne faut pas commencer par faire voir les charges du ménage. Je ne sais pas pourquoi je te parle de ça, petite Marie. Tu n'y comprends rien.
Si fait, Germain. Je sais que vous allez vous marier. Ma mère me l'a dit,
en me recommandant de n'en parler à personne, ni chez vous, ni là où je vais, et vous pouvez être tranquille, je n'en dirai mot. »
Tu feras bien, car ce n'est pas fait. Peut-être que je ne conviendrai pas à la femme en question. »
Il faut espérer que si, Germain. Pourquoi donc ne lui conviendrez-vous pas?
Qui sait? J'ai 3 enfants, et c'est lourd pour une femme qui n'est pas leur mère.
C'est vrai, mais vos enfants ne sont pas comme d'autres enfants.
Crois-tu?
Ils sont beaux comme des petits anges, et si bien élevés qu'on n'en peut pas voir de plus aimable.
Il y a Sylvain qui n'est pas trop commode.
Il est tout petit, il ne peut pas être autrement que terrible, mais il a tant d'esprit.
C'est vrai qu'il a de l'esprit, et un courage.
Il ne craint ni vache ni taureau, et si on le laissait faire, il grimperait déjà sur les chevaux avec son aîné. Moi, à votre place, j'aurais amené l'aîné. Bien sûr, ça vous aurait fait aimer tout de suite d'avoir un enfant si beau.
Oui, si la femme aime les enfants. Mais si elle ne les aime pas?
Est-ce qu'il y a des femmes qui n'aiment pas les enfants?
Pas beaucoup, je pense. Mais enfin, il y en a, et c'est là ce qui me tourmente.
Vous ne la connaissez donc pas du tout, cette femme?
Pas plus que toi, et je crains de ne pas la mieux connaître après que je l'aurai vue.
Je ne suis pas méfiant, moi. Quand on me dit de bonnes paroles, j'y crois. Mais j'ai été plus d'une fois à même de m'en repentir, car les paroles ne sont pas des actions. On dit que c'est une fort brave femme.
Qui dit cela? Le père Maurice?
Oui, votre beau-père.
C'est fort bien. Mais il ne la connaît pas non plus.
Eh bien, vous la verrez tantôt. Vous ferez grande attention, et il faut espérer que vous ne vous tromperez pas, Germain.
Tiens, petite Marie,
je serais bien aise que tu entres un peu dans la maison avant de t'en aller tout droit aux ormeaux. Tu es fine, toi, tu as toujours montré de l'esprit, et tu fais attention à tout. Si tu vois quelque chose qui te donne à penser, tu m'en avertiras tout doucement. Oh non, Germain, je ne ferai pas cela. Je craindrais trop de me tromper. Et d'ailleurs, si une parole dite à la légère venait à vous dégoûter de ce mariage, vos parents m'en voudraient, et j'ai bien assez de chagrin comme ça, sans en attirer d'autres sur ma pauvre chère femme de mère. » Comme il devisait ainsi, la grise fit un écart en dressant les oreilles, puis revint sur ses pas et se rapprocha du buisson où quelque chose qu'elle commençait à reconnaître l'avait d'abord effrayée. Germain jeta un regard sur le buisson et vit dans le fossé, sous les branches épaisses et encore fraîches d'un têteau de chêne, quelque chose qu'il prit pour un agneau.
« C'est une bête égarée, » dit-il, « ou morte, car elle ne bouge. Peut-être que quelqu'un la cherche, il faut voir. »
« Ce n'est pas une bête, » s'écria la petite Marie. « C'est un enfant qui dort, c'est votre petit Pierre. »
« Par exemple, » dit Germain en descendant de cheval, « voyez ce petit garnement qui dort là, si loin de la maison, et dans un fossé où quelques serpents pourraient bien le trouver. »
Il prit dans ses bras l'enfant, qui lui sourit en ouvrant les yeux, et jeta ses bras autour de son cou en lui disant « Mon petit père, tu vas m'emmener avec toi. »
« Ah oui, toujours la même chanson? Que faisiez-vous là, mauvais Pierre ?»«
J'attendais mon petit père à passer, » dit l'enfant. « Je regardais sur le chemin, et à force de regarder, je me suis endormie. »
« Et si j'étais passé sans te voir, tu serais resté toute la nuit dehors et le loup t'aurait mangé ?»«
Oh, je savais bien que tu me verrais, » répondit petit Pierre avec confiance.
« Eh bien, à présent, mon Pierre, embrasse-moi, dis-moi adieu et retourne vite à la maison, si tu ne veux pas qu'on soupe sans toi. »«
Tu ne veux donc pas m'emmener ?»
s'écria le petit en commençant à frotter ses yeux pour montrer qu'il avait dessein de pleurer.
« Tu sais bien que grand-père et grand-mère ne le veulent pas, » dit Germain, se retranchant derrière l'autorité des vieux parents comme un homme qui ne compte guère sur la sienne propre.
Mais l'enfant n'entendit rien. Il se prit à pleurer tout de bon, disant que puisque son père emmenait la petite Marie, il pouvait bien l'emmener aussi. On lui objecta qu'il fallait passer les grands bois, qu'il y avait là beaucoup de méchantes bêtes qui mangeaient les petits enfants, que la grise ne voulait pas porter 3 personnes, qu'elle l'avait déclaré en partant, et que dans le pays où l'on se rendait, il n'y avait ni lit ni souper pour les marmots. Toutes ces excellentes raisons ne persuadèrent point petit Pierre. Il se jeta sur l'herbe et s'y roula en criant que son petit père ne l'aimait plus, et que s'il ne l'emmenait pas, il ne rentrerait point du jour ni de la nuit à la maison. Germain avait un cœur de père aussi tendre et aussi faible que celui d'une femme. La mort de la sienne, les soins qu'il avait été forcé de rendre à ses petits, aussi la pensée que ces pauvres enfants sans mère avaient besoin d'être beaucoup aimés, avaient contribué à le rendre ainsi, et il se fit en lui un si rude combat, d'autant plus qu'il rougissait de sa faiblesse et s'efforçait de cacher son malaise à la petite Marie, que la sueur lui en vint au front et que ses yeux se bordèrent de rouge, prêts à pleurer aussi. Enfin, il essaya de se mettre en colère. Mais en se retournant vers la petite Marie, comme pour la prendre à témoin de sa fermeté d'âme, il vit que le visage de cette bonne fille était baigné de larmes, et tout son courage l'abandonnant, il lui fut impossible de retenir les siennes, bien qu'il grondât et menaçât encore. « Vrai, vous avez le cœur trop dur, » lui dit enfin la petite Marie, « et pour ma part, je ne pourrai jamais résister comme cela à un enfant qui a un si gros chagrin. Voyons, Germain, emmenez-le. Votre jument est bien habituée à porter deux personnes et un enfant, à preuve que votre beau-frère et sa femme, qui est plus lourde que moi de beaucoup, vont au marché le samedi avec leur garçon sur le dos de cette bonne bête. Vous le mettrez à cheval devant vous, et d'ailleurs j'aime mieux m'en aller toute seule à pied que de faire de la peine à ce petit. » « Qu'à cela ne tienne, » répondit Germain, qui mourait d'envie de se laisser convaincre. La grise est forte et emporterait deux de plus, s'il y avait place sur son échine. Mais que ferons-nous de cet enfant en route? Il aura froid, il aura faim, et qui prendra soin de lui ce soir et demain pour le coucher, le laver et le rhabiller? Je n'ose pas donner cet ennui-là à une femme que je ne connais pas, et qui trouvera sans doute que je suis bien sans façon avec elle pour commencer. D'après l'amitié ou l'ennui qu'elle montrera, vous la connaîtrez tout de suite, Germain, croyez-moi. Et d'ailleurs, si elle rebute votre Pierre, moi je m'en charge. J'irai chez elle l'habiller, et je l'emmènerai au champ demain. Je l'amuserai toute la journée, et j'aurai soin qu'il ne manque de rien. Et il t'ennuiera, ma pauvre fille. Il te gênera. Toute une journée, c'est long. Ça me fera plaisir, au contraire. Ça me tiendra compagnie, et ça me rendra moins triste le premier jour que j'aurai à passer dans un nouveau pays. Je me figurerai que je suis encore chez nous. L'enfant, voyant que la petite Marie prenait son parti, s'était cramponné à sa jupe et la tenait si fort qu'il eût fallu lui faire du mal pour l'en arracher. Quand il reconnut que son père cédait, il prit la main de Marie dans ses deux petites mains brunies par le soleil et l'embrassa en sautant de joie et en la tirant vers la jument avec cette impatience ardente que les enfants portent dans leurs désirs. « Allons, allons, » dit la jeune fille en le soulevant dans ses bras. Tâchons d'apaiser ce pauvre cœur qui saute comme un petit oiseau, et si tu sens le froid quand la nuit viendra, dis-le-moi, mon Pierre, je te serrerai dans ma cape. Embrasse ton petit père, et demande-lui pardon d'avoir fait le méchant. Dis que ça ne t'arrivera plus jamais, jamais, entends-tu?
Oui, oui, à condition que je ferai toujours sa volonté, n'est-ce pas? Dit Germain en essuyant les yeux du petit avec son mouchoir.
Ah, Marie, vous me le gâtez, ce drôle-là. Et vraiment, tu es une trop bonne fille, petite Marie. Je ne sais pas pourquoi tu n'es pas entrée bergère chez nous à la Saint-Jean dernière. Tu aurais pris soin de mes enfants, et j'aurais mieux aimé te payer un bon prix pour les servir que d'aller chercher une femme qui croira peut-être me faire beaucoup de grâce en ne les détestant pas.
Il ne faut pas voir comme ça les choses par le mauvais côté, répondit la petite Marie, en tenant la bride du cheval pendant que Germain plaçait son fils sur le devant du large bât garni de peau de chèvre. Si votre femme n'aime pas les enfants, vous me prendrez à votre service l'an prochain, et, soyez tranquille, je les amuserai si bien qu'ils ne s'apercevront de rien. » Fin du chapitre 6. Cet enregistrement fait partie du domaine public.
Chapitre 7 de La Mare au Diable. Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer, rendez-vous sur LibriVox.org. Enregistré par Ezoa. La Mare au Diable de George Sand. Chapitre 7. Dans la lande.
« Ah ça !» dit Germain, lorsqu'ils eurent fait quelques pas. « Que va-t-on penser à la maison en ne voyant pas rentrer ce petit bonhomme? Les parents vont être inquiets et le chercheront partout.
Vous allez dire au cantonnier qui travaille là-haut sur la route que vous l'emmenez, et vous lui recommanderez d'avertir votre monde.
« C'est vrai, Marie. Tu t'avises de tout, toi. Moi, je ne pensais plus que Jeannie devait être par là.
Et justement, il demeure tout près de la métairie, et il ne manquera pas de faire la commission. »
Quand on l'eut avisé à cette précaution, Germain remit la jument au trot, et petit Pierre était si joyeux qu'il ne s'aperçut pas tout de suite qu'il n'avait pas dîné. Mais le mouvement du cheval lui creusant l'estomac, il se prit, au bout d'une lieue, à bâiller, à pâlir, et à confesser qu'il mourait de faim.
« Voilà que ça commence, » dit Germain. « Je savais bien que nous n'irions pas loin sans que ce monsieur crie à la faim ou la soif. »«
J'ai soif aussi !»
dit Petit Pierre. Eh bien, nous allons donc entrer dans le cabaret de la mère Rebec à Corlay, au point du jour. Belle enseigne, mais pauvre gîte. Allons, Marie, tu boiras aussi un doigt de vin.
Non, non, je n'ai besoin de rien, dit-elle. Je tiendrai la jument pendant que vous entrerez avec le petit.
Mais j'y songe, ma bonne fille. Tu as donné ce matin le pain de ton goûter à mon Pierre, et toi tu es à jeun. Tu n'as pas voulu dîner avec nous à la maison, tu ne faisais que pleurer.
Oh, je n'avais pas faim, j'avais trop de peine, et je vous jure qu'à présent encore je ne sens aucune envie de manger.
Il faut te forcer, petite, autrement tu seras malade. Nous avons du chemin à faire, et il ne faut pas arriver là-bas comme des affamés pour demander du pain avant de dire bonjour.
Moi-même je veux te donner l'exemple, quoique je n'ai pas grand appétit.
Mais j'en viendrai à bout, vu que, après tout, je n'ai pas dîné non plus. Je vous voyais pleurer, toi et ta mère, et ça me troublait le cœur. Allons, allons, je vais attacher la grise à la porte. Descends, je le veux. »
Ils entrèrent tous trois chez la Rebec, et, en moins d'un quart d'heure, la grosse boiteuse réussit à leur servir une omelette de bonne mine, du pain bis et du vin clairet. Les paysans ne mangent pas vite, et le petit Pierre avait si grand appétit qu'il se passa bien une heure avant que Germain pût songer à se remettre en route. La petite Marie avait mangé par complaisance d'abord, puis, peu à peu, la faim était venue, car à 16 ans, on ne peut pas faire longtemps diète, et l'air des campagnes est impérieux. Les bonnes paroles que Germain sut lui dire pour la consoler et lui faire prendre courage produisirent aussi leur effet. Elle fit effort pour se persuader que 7 mois seraient bientôt passés, et pour songer au bonheur qu'elle aurait de se retrouver dans sa famille et dans son hameau, puisque le père Maurice et Germain s'accordaient pour lui promettre de la prendre à leur service. Mais comme elle commençait à s'égayer et à badiner avec le petit Pierre, Germain eut la mauvaise idée de lui faire regarder par la fenêtre du cabaret la belle vue de la vallée qu'on voit tout entière de cette hauteur et qui est si riante, si verte et si fertile. Marie regarda et demanda si de là on voyait les maisons de Bel Air.
« Sans doute, dit Germain, et la métairie, et même ta maison. Tiens, ce petit point gris, pas loin du grand peuplier à Godard, plus bas que le clocher. »
« Ah, je la vois !»
dit la petite, et là-dessus, elle recommença de pleurer.
« J'ai eu tort de te faire songer à ça, »
dit Germain. « Je ne fais que des bêtises aujourd'hui. »« Allons, Marie, partons, ma fille. Les jours sont courts, et dans une heure, quand la lune montera, il ne fera pas chaud. »
Ils se remirent en route, traversèrent la grande brande, et comme, pour ne pas fatiguer la jeune fille et l'enfant par un trop grand trot, Germain ne pouvait faire aller la grise bien vite, le soleil était couché quand ils quittèrent la route pour gagner les bois. Germain connaissait le chemin jusqu'au Magnier, mais il pensa qu'il aurait plus court en ne prenant pas l'avenue de Chanteloube, mais en descendant par Presles et la Sépulture, direction qu'il n'avait pas l'habitude de prendre quand il allait à la foire. Il se trompa et perdit encore un peu de temps avant d'entrer dans le bois. Encore n'y entra-t-il point par le bon côté, et il ne s'en aperçut pas, si bien qu'il tourna le dos à fourche et gagna beaucoup plus haut du côté d'Ardente. Ce qui l'empêchait alors de s'orienter, c'était un brouillard qui s'élevait avec la nuit, un de ces brouillards des soirs d'automne, que la blancheur du clair de lune rend plus vagues et plus trompeurs encore. Les grandes flaques d'eau dont les clairières sont semées exhalaient des vapeurs si épaisses que, lorsque la grise les traversait, on ne s'en apercevait qu'au clapotement de ses pieds et à la peine qu'elle avait à les tirer de la vase. Quand on eut enfin trouvé une belle allée bien droite et qu'arrivé au bout, Germain chercha à voir où il était. Il s'aperçut bien qu'il s'était perdu. Car le père Maurice, en lui expliquant son chemin, lui avait dit qu'à la sortie des bois, il aurait à descendre un bout de côte très raide, à traverser une immense prairie et à passer 2 fois la rivière à Gué. Il lui avait même recommandé d'entrer dans cette rivière avec précaution, parce qu'au commencement de la saison, il y avait eu de grandes pluies et que l'eau pouvait être un peu haute. Ne voyant ni descente, ni prairie, ni rivière, mais la lande unie et blanche comme une nappe de neige, Germain s'arrêta, chercha une maison, attendit un passant, et ne trouva rien qui pût le renseigner. Alors il revint sur ses pas et rentra dans les bois. Mais le brouillard s'épaissit encore plus, la lune fut tout à fait voilée, les chemins étaient affreux, les fondrières profondes. Par 2 fois, la grise faillit s'abattre. Chargée comme elle l'était, elle perdait courage, et si elle conservait assez de discernement pour ne pas se heurter contre les arbres, elle ne pouvait empêcher que ceux qui la montaient n'eussent affaire à de grosses branches qui barraient le chemin à la hauteur de leur tête et qui les mettaient fort en danger. Germain perdit son chapeau dans une de ces rencontres et eut grand peine à le retrouver. Petit Pierre s'était endormi,
et se laissant aller comme un sac, il embarrassait tellement les bras de son père que celui-ci ne pouvait plus ni soutenir ni diriger le cheval. « Je crois que nous sommes ensorcelés, » dit Germain en s'arrêtant, « car ces bois ne sont pas assez grands pour qu'on s'y perde, à moins d'être ivre, et il y a 2 heures au moins que nous y tournons sans pouvoir en sortir. La grise n'a qu'une idée en tête, c'est de s'en retourner à la maison, et c'est elle qui me fait tromper. Si nous voulons nous en aller chez nous, nous n'avons qu'à la laisser faire. Mais quand nous sommes peut-être à 2 pas de l'endroit où nous devons coucher, il faudrait être fou pour y renoncer et recommencer une si longue route. Cependant, je ne sais plus que faire. Je ne vois ni ciel ni terre, et je crains que cet enfant-là ne prenne la fièvre si nous restons dans ce damné brouillard, ou qu'il ne soit écrasé par notre poids si le cheval vient à s'abattre en avant. « Il ne faut pas nous obstiner davantage, » dit la petite Marie. « Descendons, Germain. Donnez-moi l'enfant. Je le porterai fort bien, et j'empêcherai mieux que vous que la cape se dérangeant ne le laisse à découvert. Vous conduirez la jument par la bride, et nous verrons peut-être plus clair quand nous serons plus près de la terre. » Ce moyen ne réussit qu'à les préserver d'une chute de cheval, car le brouillard rampait et semblait se coller à la terre humide. La marche était pénible, et ils furent bientôt si harassés qu'ils s'arrêtèrent en rencontrant enfin un endroit sec sous de grands chênes. La petite Marie était en nage, mais elle ne se plaignait ni ne s'inquiétait de rien. Occupée seulement de l'enfant, elle s'assit sur le sable et le coucha sur ses genoux, tandis que Germain explorait les environs, après avoir passé les rênes de la grise dans une branche d'arbre. Mais la grise, qui s'ennuyait fort de ce voyage, donna un coup de rein, dégagea les rênes, rompit les sangles, et lâchant, par manière d'acquis, une demi-douzaine de ruades plus haut que sa tête, partit à travers les taillis, montrant fort bien qu'elle n'avait besoin de personne pour retrouver son chemin. « Ça !» dit Germain, après avoir vainement cherché à la rattraper. « Nous voici à pied !» Et rien ne nous servirait de nous trouver dans le bon chemin, car il nous faudrait traverser la rivière à pied. Et à voir comme ces routes sont pleines d'eau, nous pouvons être sûrs que la prairie est sous la rivière. Nous ne connaissons pas les autres passages. Il nous faut donc attendre que ce brouillard se dissipe. Ça ne peut pas durer plus d'une heure ou deux. Quand nous verrons clair, nous chercherons une maison, la première venue à la lisière du bois. Mais à présent, nous ne pouvons sortir d'ici. Il y a là une fosse, un étang, je ne sais quoi devant nous. Et derrière, je ne saurais pas non plus dire ce qu'il y a, car je ne comprends plus par quel côté nous sommes arrivés. » Fin du chapitre 7. Cet enregistrement fait partie du domaine public.
Chapitre 8 de La Mare au Diable. Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer, rendez-vous sur LibriVox.org. Enregistré par Ezoa. La Mare au Diable de George Sand. Chapitre 8. Sous les grands chênes.
« Eh bien, prenons patience, Germain, » dit la petite Marie. « Nous ne sommes pas mal sur cette petite hauteur. La pluie ne perce pas la feuillée de ces gros chênes, et nous pouvons allumer du feu, car je sens de vieilles souches qui ne tiennent à rien et qui sont assez sèches pour flamber. Vous avez bien du feu, Germain. Vous fumiez votre pipe tantôt.
J'en avais. Mon briquet était sur le bas dans mon sac avec le gibier que je portais à ma future. » Mais la maudite jument a tout emporté, même mon manteau qu'elle va perdre et déchirer à toutes les branches.
Non pas, Germain. La bâtine, le manteau, le sac, tout est là par terre à vos pieds. La grise a cassé les sangles et tout jeté à côté d'elle en partant.
C'est vrai, Dieu certain, dit le laboureur. Et si nous pouvons trouver un peu de bois mort à tâtons, nous réussirons à nous sécher et à nous réchauffer.
Ce n'est pas difficile, dit la petite Marie. Le bois mort craque partout sous les pieds. Mais donnez-moi d'abord ici la bâtine.
Qu'en veux-tu faire?
Un lit pour le petit? Non, pas comme ça, à l'envers. Il ne roulera pas dans la ruelle, et c'est encore tout chaud du dos de la bête. Calez-moi ça de chaque côté avec ces pierres que vous voyez là.
Je ne les vois pas, moi. Tu as donc des yeux de chat?
Tenez, voilà qui est fait, Germain. Donnez-moi votre manteau, que j'enveloppe ses petits pieds, et ma cape par-dessus son corps.
Voyez s'il n'est pas couché là aussi bien que dans son lit, et tâtez-le comme il a chaud.
C'est vrai? Tu t'entends à soigner les enfants, Marie?
Ce n'est pas bien sorcier.
À présent, cherchez votre briquet dans votre sac, et je vais arranger le bois.
Ce bois ne prendra jamais, il est trop humide.
Vous doutez de tout, Germain. Vous ne vous souvenez donc pas d'avoir été pâtour et d'avoir fait de grands feux aux champs, au beau milieu de la pluie?
Oui, c'est le talent des enfants qui gardent les bêtes. Mais moi, j'ai été toucheur de bœuf aussitôt que j'ai su marcher.
C'est pour cela que vous êtes plus fort de vos bras qu'adroit de vos mains. Le voilà bâti, ce bûcher. Vous allez voir s'il ne flambera pas. donnez-moi le feu et une poignée de fougère sèche. C'est bien, soufflez à présent. Vous n'êtes pas poumonique ?
Non, pas que je sache, dit Germain en soufflant comme un soufflet de forge.
Au bout d'un instant, la flamme brilla, jeta d'abord une lumière rouge, et finit par s'élever en jets bleuâtres sous le feuillage des chênes, luttant contre la brume et séchant peu à peu l'atmosphère à 10 pieds à la ronde.
« Maintenant je vais m'asseoir auprès du petit pour qu'il ne lui tombe pas d'étincelles sur le corps, » dit la jeune fille.
« Vous, mettez du bois et animez le feu, Germain. Nous n'attraperons ici ni fièvre ni rhume, je vous en réponds. »«
Ma foi, tu es une fille d'esprit, » dit Germain, « et tu sais faire le feu comme une petite sorcière de nuit. Je me sens tout ranimé et le cœur me revient, car avec les jambes mouillées jusqu'aux genoux et l'idée de rester comme cela jusqu'au point du jour, j'étais de fort mauvaise humeur tout à l'heure.
Et quand on est de mauvaise humeur, on ne s'avise de rien. » reprit la petite Marie.
« Et tu n'es donc jamais de mauvaise humeur, toi ?»«
Eh non, jamais. À quoi bon ?»«
Oh, ce n'est bon à rien, certainement. Mais le moyen de s'en empêcher quand on a des ennuis ?»« Dieu sait que tu n'en as pas manqué, toi, pourtant, ma pauvre petite, car tu n'as pas toujours été heureuse. »«
C'est vrai. Nous avons souffert, ma pauvre mère et moi. Nous avions du chagrin, mais nous ne perdions jamais courage. »«
Je ne perdrai pas courage pour quelque ouvrage que ce fût, » dit Germain.
« Mais la misère me fâcherait. » car je n'ai jamais manqué de rien. Ma femme m'avait fait riche, et je le suis encore. Je le serai tant que je travaillerai à la métairie. Ce sera toujours, j'espère. Mais chacun doit avoir sa peine. J'ai souffert autrement.
Oui, vous avez perdu votre femme, et c'est grand pitié. N'est-ce pas ?
Oh, je l'ai bien pleurée, allez, Germain, car elle était si bonne. Tenez, n'en parlons plus, car je la pleurerai encore. Tous mes chagrins sont en train de me revenir aujourd'hui.
C'est vrai qu'elle t'aimait beaucoup, petite Marie. Elle faisait grand cas de toi et de ta mère.
« Allons, tu pleures ? Voyons, ma fille, je ne veux pas pleurer, moi. »«
Vous pleurez pourtant, Germain. Vous pleurez aussi. Quelle honte y a-t-il pour un homme à pleurer sa femme ? Ne vous gênez pas, allez. Je suis bien de moitié avec vous dans cette peine-là. »«
Tu as un bon cœur, Marie, et ça me fait du bien de pleurer avec toi. Mais approche donc tes pieds du feu. Tu as tes jupes toutes mouillées aussi, pauvre petite fille. Tiens, je vais prendre ta place auprès du petit. Chauffe-toi mieux que ça. »
« J'ai assez chaud, » dit Marie, « et si vous voulez vous asseoir, prenez un coin du manteau, moi je suis très bien. »
« Le fait est qu'on est pas mal ici, » dit Germain en s'asseyant tout auprès d'elle. « Il n'y a que la faim qui me tourmente un peu. Il est bien 9 heures du soir et j'ai eu tant de peine à marcher dans ces mauvais chemins que je me sens tout affaiblie. Est-ce que tu n'as pas faim aussi, toi, Marie ?»«
Moi ? Pas du tout. Je ne suis pas habituée, comme vous, à faire 4 repas, et j'ai été tant de fois me coucher sans souper qu'une fois de plus ne m'étonne guère. »
« Eh bien, c'est commode, une femme comme toi. Ça ne fait pas de dépenses, » dit Germain en soudant.
« Je ne suis pas une femme, » dit naïvement Marie, sans s'apercevoir de la tournure que prenaient les idées du laboureur.
« Est-ce que vous rêvez ?»«
Oui, je crois que je rêve, » répondit Germain.
« C'est la faim qui me fait divaguer, peut-être. »«
Que vous êtes donc gourmand, » reprit-elle en s'égayant un peu à son tour.
« Eh bien, si vous ne pouvez pas vivre 5 ou 6 heures sans manger, » « Est-ce que vous n'avez pas là du gibier dans votre sac et du feu pour le faire cuire ?»«
Diantre, c'est une bonne idée, mais le présent à mon futur beau-père. »«
Vous avez 6 perdrix et 1 lièvre. Je pense qu'il ne faut pas tout cela pour vous rassasier. »«
Mais faire cuire cela ici, sans broche et sans landier, ça deviendra du charbon. »«
Non pas, » dit la petite Marie. « Je me charge de vous le faire cuire sous la cendre sans goût de fumée. »«
Est-ce que vous n'avez jamais attrapé d'alouettes dans les champs et que vous ne les avez pas fait cuire entre 2 pierres ?»
« Ah, c'est vrai, j'oublie que vous n'avez pas été pastour.
Voyons, plumez cette perdrix. »«
Pas si fort, vous lui arrachez la peau. »«
Tu pourrais bien plumer l'autre pour me montrer. »«
Vous voulez donc en manger 2 ? Quel ogre !
Allons, les voilà plumées, je vais les cuire. »«
Tu ferais une parfaite cantinière, petite Marie. Mais par malheur, tu n'as pas de cantine, et je serai réduite à boire l'eau de cette mare. »«
Vous voudriez du vin, pas vrai ? Il vous faudrait peut-être du café. »«
Vous vous croyez à la foire sous la ramée ?
Appelez l'aubergiste, de la liqueur au fin laboureur de Bel Air. »
Ah, petite méchante, vous vous moquez de moi ? Vous ne boiriez pas du vin, vous, si vous en aviez ?
Moi ? J'en ai bu ce soir avec vous chez la Rebecque, pour la 2e fois de ma vie. Mais si vous êtes bien sage, je vais vous en donner une bouteille quasi pleine, et du bon encore.
Comment, Marie ? Tu es donc sorcière, décidément ?
Est-ce que vous n'avez pas fait la folie de demander 2 bouteilles de vin à la Rebecque ?
Vous en avez bu une avec votre petit ? Et j'ai à peine avalé 3 gouttes de celles que vous aviez mises devant moi.
Cependant, vous les avez payées toutes les 2 sans y regarder.
Eh bien ?
Eh bien, j'ai mis dans mon panier celles qui n'avaient pas été bues,
parce que j'ai pensé que vous ou votre petit auriez soif en route, et la voilà.
Tu es la fille la plus avisée que j'ai jamais rencontrée. Voyez, elle pleurait pourtant, cette pauvre enfant, en sortant de l'auberge. Ça ne l'a pas empêchée de penser aux autres plus qu'à elle-même. Petite Marie, l'homme qui t'épousera ne sera pas sot.
Je l'espère, car je n'aimerais pas un sot.
Allons, mangez vos perdrix, elles sont cuites à point. Et faute de pain, vous vous contenterez de châtaignes.
Et où diable as-tu pris aussi des châtaignes?
C'est bien étonnant. Tout le long du chemin, j'en ai pris aux branches en passant et j'en ai rempli mes poches.
Et elles sont cuites aussi?
À quoi donc aurais-je eu l'esprit si je ne les avais pas mises dans le feu dès qu'il a été allumé? Ça se fait toujours au champ.
Ah ça, petite Marie, nous allons souper ensemble. Je veux boire à ta santé et te souhaiter un bon mari.
Là, comme tu le souhaiterais toi-même. Dis-moi un peu cela.
J'en serais fort empêchée, Germain, car je n'y ai pas encore songé.
Comment, pas du tout? Jamais? Dit Germain en commençant à manger avec un appétit de laboureur, mais coupant les meilleurs morceaux pour les offrir à sa compagne, qui refusa obstinément et se contenta de quelques châtaignes.
Dis-moi donc, petite Marie, reprit-il, voyant qu'elle ne songeait pas à lui répondre. Tu n'as pas encore eu l'idée du mariage? Tu es en âge pourtant.
Peut-être, dit-elle, mais je suis trop pauvre. Il faut au moins 100 écus pour entrer en ménage, et je dois travailler 5 ou 6 ans pour les amasser.
Pauvre fille, je voudrais que le père Maurice voulût bien me donner 100 écus pour t'en faire cadeau.
Grand merci, Germain. Eh bien, qu'est-ce qu'on dirait de moi?
Que veux-tu qu'on dise? On sait bien que je suis vieux et que je ne peux pas t'épouser. Alors on ne supposerait pas que je... que tu...
Dites donc, laboureur, voilà votre enfant qui se réveille, dit la petite Marie. Fin du chapitre 8. Cet enregistrement fait partie du domaine public.
Save big money now on new siding from LP SmartSide at Menards. Update and beautify your home with your choice of 13 timeless colors of pre-finished engineered siding. It's durable and includes a Sherwin-Williams factory finish paint warranty that means no painting for years to come. View our entire selection of siding from LP SmartSide today. And don't forget to check out our flyer on Menards.com for all the great deals happening now. Save big money.